Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du management de J'avance qui sera consacré aujourd'hui à Abraham Maslow, le célèbre père de la hiérarchie des besoins. Abraham Maslow est né le 1er avril 1908 à Brooklyn et est mort il y a 50 ans, le 8 juin 1970 en Californie. Abraham est le fils aîné d'une famille de 7 enfants. Ses parents sont des immigrants russes d'origine juive, arrivés aux États-Unis un an avant sa naissance. Dans ce contexte, son enfance ne fut pas toujours facile. On pense que la discrimination dont il fut victime, sa difficulté à s'intégrer et à être reconnu pour ce qu'il est, ont sans doute contribué à son goût pour la psychologie. De même, la vie au sein de cette famille nombreuse, extrêmement modeste mais exigeante, le tout sans ressentir beaucoup d'amour de la part de sa mère, l'a conduit à se réfugier dans les livres. Abraham Maslow, qui se dirige d'abord vers des études de droit, s'aperçoit rapidement qu'il préfère la psychologie. Il décide alors d'aller l'étudier dans l'université du Wisconsin, où il devint ensuite professeur. C'est le début du chemin qui le mena à devenir un des pères de la psychologie humaniste, que l'on appelle également la troisième force, car c'est un nouveau courant qui s'extrait à la fois des croyances behavioristes et du déterminisme psychanalytique très en vogue au milieu du XXe siècle. Maslow est d'abord psychologue et ses recherches portent sur l'homme. L'application de ses travaux au management ne viendra que bien plus tard. Il fut à la fois proche puis éloigné de Freud. Pour Maslow, et contrairement à Freud, l'homme est naturellement bon. Il porte néanmoins crédit aux travaux de Freud, tout en estimant que ses conclusions portent sur la partie névrotique de l'être humain. Il se considère en quelque sorte complémentaire de Freud. Pour Abraham Maslow, l'homme peut être égoïste et agressif dès lors que ses besoins ne sont pas satisfaits. Mais concernant la nature humaine, Maslow a une approche bienveillante, là où Freud y met le mal et les névroses. Pour Maslow, les capacités humaines sont neutres, voire bonnes, et l'agressivité n'est qu'une réponse à la frustration. Alors que pour Freud, le mal est dans le soi, et le bien est une réponse à la vie en société et à la non-satisfaction des besoins. Au début de sa carrière, Maslow trouvera en Alfred Adler, qui fut proche de Freud avant de s'en éloigner, un mentor dont l'histoire avec un grand H a fait de lui le premier psychologue communautaire. C'est ainsi qu'en 1942, Maslow développe sa hiérarchie des besoins. Il identifie 5 niveaux de besoins. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et enfin les besoins d'accomplissement. Les besoins physiologiques se traduisent par le fait de pouvoir se nourrir, dormir, respirer, etc. Les besoins de sécurité par celui d'avoir un emploi, des choses à soi par exemple. Les besoins d'appartenance se concrétisent par le fait d'avoir un réseau et une vie sociale. Les besoins d'estime sont comblés lorsque l'on peut se sentir utile, avoir de la valeur, trouver un sens à nos actions. Enfin, les besoins d'accomplissement permettent d'appréhender nos valeurs et d'être en harmonie avec elles pour développer notre propre potentiel. Maslow est en cela un des pères du courant humaniste qui reconnaît l'être humain comme capable, dans sa nature profonde, de s'auto-réaliser, à la différence de la vision freudienne qui considère que la réalisation passe par un ordre nécessaire pour vivre en société. Maslow fut d'ailleurs complémentaire d'Erich Fromm, qui développait dans son ouvrage « L'homme pour lui-même » la distinction entre plaisir primaire et secondaire. Le plaisir primaire relevait de la satisfaction d'un besoin, quand le plaisir secondaire relevait de la création et du développement. La satisfaction d'un plaisir primaire provoque satiété, soulagement, repos, quand la satisfaction d'un plaisir secondaire apporte extase et sérénité. Pour Fromm, la satisfaction d'un plaisir primaire est plus futile et moins durable que la satisfaction d'un plaisir secondaire. Dans sa hiérarchie des besoins, Maslow développe la théorie selon laquelle nous ne pouvons accéder aux besoins supérieurs que lorsque le besoin précédent est comblé, ce qui mène directement à la motivation à combler un besoin pour accéder aux besoins supérieurs. Il est important à ce stade de noter quelques points essentiels. Cette hiérarchie est en mouvement et elle n'est pas exclusive pour Maslow. C'est important en effet car la présentation de la hiérarchie des besoins de Maslow a parfois été caricaturée ou déformée comme des tiroirs que l'on ne pourrait ouvrir que les uns après les autres. Et ce n'est pas là l'idée de Maslow. Il faudrait davantage parler de progressivité. Un besoin suffisamment comblé permet à l'être humain de commencer à viser le besoin supérieur. Il explique bien que le désir de croissance vient bien d'une envie d'évolution due au fait que le besoin inférieur est suffisamment comblé. Il s'agit donc d'une question de degré de satisfaction d'un besoin. Quand le besoin est suffisamment comblé, mais peut-être pas entièrement, on développe et met en œuvre son désir d'évolution vers le niveau supérieur. En revanche, il développe bien l'idée qu'une longue privation d'un besoin peut créer une forme de fixation sur ce besoin de la part de l'individu. De la même façon, cette évolution n'est pas linéaire et constante. On peut se déplacer entre les besoins identifiés et les événements de la vie peuvent nous y contraindre. De la même façon, l'évolution de la satisfaction des besoins n'est pas liée à un statut social ou un niveau d'études. En d'autres termes, contrairement à ce que l'on peut parfois lire, les besoins supérieurs ne sont pas plutôt accessibles au cadre supérieur. Cet argument serait entendable par le fait que le cadre supérieur ou dirigeant pourrait accéder plus rapidement et facilement à ce niveau supérieur en raison de ses revenus et de ses fonctions plus susceptibles de mener à l'accomplissement. Mais ce n'est pas là l'idée principale de Maslow. Développé en 1942, puis présenté en 1943 à New York, Abraham Maslow a travaillé toute sa vie sur cette théorie de la motivation, car la hiérarchie des besoins constitue bien une théorie de la motivation. Il avait d'ailleurs, au fil des années, identifié un nouveau besoin supérieur qu'il qualifiait d'expérience paroxystique, de plénitude et d'aboutissement, qui nous permet de devenir ce que nous sommes en équilibre et en harmonie. Dans ce niveau ultime qui relève d'une forme d'auto-transcendance, nous pouvons nous extraire de nous-mêmes pour n'avoir que le souci de l'autre ou de Dieu, selon Maslow. Ce dernier degré de la hiérarchie n'a que peu été repris après sa mort, notamment peut-être parce que les psychologues de l'époque qui ont continué à travailler sur son œuvre n'avaient jamais connu ce degré absolu et de ce fait ne l'appréhendaient pas. Reste maintenant à parler de pyramide, car, peut-être l'avez-vous constaté, je n'ai pas jusqu'à présent parlé de pyramide, mais de hiérarchie. Et cela pour une raison simple. Abraham Maslow n'a jamais représenté sa théorie par une pyramide. Il y a quelques années, trois chercheurs américains, Todd Brigman, Stephen Cummings et John Ballard, ont mis en lumière le fait que c'est un consultant américain dans les années 60, du nom de Charles McDermid, qui, voulant expliquer la hiérarchie des besoins à ses clients, l'avait formalisée sous forme de pyramide. D'autres avant lui, d'ailleurs, l'avaient déjà représentée sous forme d'escalier. Mais c'est finalement cette pyramide qui a traversé le temps et qui a été définitivement adoptée dans les années 80-90. En réalité, cette pyramide est peu représentative de l'idée de Maslow, pour qui le chemin vers le besoin le plus élevé ne signifiait pas un rétrécissement comme semble le montrer la pyramide à la base large et au sommet étroit, mais un niveau aussi, sinon plus vaste, que les besoins physiologiques. Abraham Maslow fut professeur de psychologie à l'Université Alliant International, à l'Université Brandeis, au Brooklyn College, à la New School for Social Research et à l'Université Columbia. Avec Carl Rogers, lui-même psychologue à l'origine de l'écoute active, Maslow fonda l'Association for Humanistic Psychology, la AHP, qui existe encore aujourd'hui et qui a compté parmi ses éminents présidents, Virginie Satir par exemple. Abraham Maslow n'eut pas le temps de terminer ses travaux. Après une grave crise cardiaque en 1967 qui le laissa affaibli, il mourut en 1970 à l'âge de 62 ans, laissant sa femme Bertha, artiste dans l'âme, seule avec ses deux filles, Hélène, qui avait suivi le chemin de son père en devenant psychothérapeute, et Anne Ruth, qui dirigeait une petite entreprise et était très engagée en tant que bénévole, bienfaitrice et mécène dans la communauté d'Indianapolis. Elle est décédée en avril dernier du coronavirus à l'âge de 82 ans, pile 50 ans après son père. On le voit, les applications de Maslow en matière de management ont donc surtout été développées après sa mort, par de nombreux chercheurs et contributeurs qui ont repris et continué ses travaux. Les travaux de Maslow eurent bien sûr, comme c'est le cas de toutes les grandes figures de la psychologie, et c'est heureux, son lot de détracteurs. Sur un des points, Maslow avait d'ailleurs pu admettre que sa théorie pouvait être considérée comme relative à chaque culture et ne pouvait donc pas être appliquée de façon universelle. En ce sens, la hiérarchie des besoins pourrait avoir ce biais de s'appliquer davantage aux sociétés occidentales. D'autres détracteurs ont tenté de s'appuyer sur le manque de données empiriques pour remettre en cause la hiérarchie des besoins, mais une étude menée par deux chercheurs américains auprès de plus de 60 000 participants de 123 pays différents entre 2005 et 2010, a confirmé, dans la droite ligne des idées de Maslow, que les gens ont besoin d'assouvir d'abord leurs besoins de base et de sécurité avant de pouvoir combler d'autres besoins supérieurs. Et je ne pouvais finir sans faire une petite digression et vous parler du cimetière du Mont Auburn où est enterré Abraham Maslow. Ce cimetière est implanté à la frontière des villes de Waterton et Cambridge, dans le Massachusetts, à l'ouest de Boston. Le cimetière du Mont Auburn est considéré comme le premier cimetière paysager des États-Unis et est inscrit au Registre national des sites historiques depuis 2003. Non confessionnel, ce cimetière s'étend sur 17 km de routes et de sentiers et accueillit en 2003 plus de 93 000 tombes, mais également la Washington Tower, en hommage à George Washington. Il est implanté dans une région réputée pour la beauté de ses paysages et pour le nombre d'espèces d'oiseaux, mais aussi d'arbres, d'arbustes et de plantes qui y sont recensées. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast du Management de J'avance. En attendant, vous pouvez le retrouver et me retrouver sur mon site j'avance.fr. Prenez soin de vous.